Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Mantengo le distanze, almeno evito il contagio.
Signore e signori, per piacere mantenere le distanze. Signore e signori, per piacere mantenere le distanze.
Bonjour à tous. Le confinement généralisé dans de nombreux pays européens en raison du coronavirus rebat les codes de l'école à distance avec des dizaines de millions d'élèves et d'étudiants qui sont à la maison. Tous les pays ne sont pas préparés de la même façon à ce défi. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans Accent d'Europe, un magazine enregistré et préparé lui aussi à distance et en confinement. Et tout d'abord, direction l'Italie, un des premiers pays à avoir demandé aux élèves de ne plus prendre le chemin de l'école. Dans 11 communes de Lombardie et de Vénétie, la quarantaine a même commencé dès le 21 février. Dans la petite ville de Codogno, Cécile Debarge a pu parler à distance avec des enseignants qui ont bouleversé leurs pratiques, qui ont innové pour rester en lien avec leurs élèves. Bonjour Cécile Debarge. On peut dire que Codogno est considéré dans le pays comme le point de départ de l'épidémie.
Codogno a parfois été rebaptisé par la presse italienne la One d'Italie. Elle fait partie de cette fameuse zone rouge, la première du pays et d'Europe à avoir été fermée. Le défi d'enseigner à distance, c'est donc le quotidien de la professeure Luisa Lenta depuis bientôt un mois et demi. Elle est enseignante en primaire et en cinquième au collège de Codogno.
On ne sait pas quand tout ça finira, donc tous les jours, il faut trouver une bonne raison de continuer, aller de l'avant et rester serein. Et je crois que ça n'est pas si facile pour tout le monde.
La professeure redouble d'efforts, 25 ans d'expérience, hyper connectée. Elle est la responsable de l'innovation pédagogique dans l'établissement. Sa première idée, lancer le projet Zone Rouge, isolée mais connectée.
Et avec qui connecte-t-elle ses élèves ?
Avec l'extérieur, par tous les moyens possibles. Ces dernières années, Luisa Lenta a organisé plusieurs jumelages virtuels grâce à eTwinning, une plateforme qui connecte les classes du monde entier pour y parler ou s'y échanger des dessins, des histoires ou des messages audio. Depuis le début du confinement, ces jeunes élèves ont donc des correspondants virtuels du Portugal, de Bulgarie, de Finlande, de Turquie, du Royaume-Uni ou d'autres villes italiennes.
Et comment réagissent ces autres élèves européens au confinement de leurs petits camarades ?
Avant tout, ils les soutiennent. Il leur remonte le moral. Leurs correspondants virtuels leur envoient des dessins, des chansons, des messages de soutien. Ils échangent en particulier avec une école de Torquay, dans le sud de l'Angleterre, que Luisa Lenta connaît depuis 3 ans.
Ils étaient inquiets pour nous. Ils se disaient « ça vous est arrivé, mais pour nous tout va bien pour le moment. Peut-être qu'on l'évitera. » Moi, je leur ai toujours dit de se préparer. Je leur ai répété de faire attention, de se préparer, parce que nous, on n'a pas pu se préparer. Par exemple, on a des livres et des cahiers qui sont restés à l'école, on s'est débrouillé.
Les confinés de longue date donnent donc des leçons à ceux qui, à l'époque, étaient encore libres de leur mouvement.
Pour nous, ça a été une coupure nette, traumatisante. Ça nous est tombé dessus et au début, personne n'avait bien compris comment faire et comment il fallait se comporter.
Car la professeure Lenta, comme beaucoup d'autres, pensait au début que ça ne durait que 2 semaines. Il a fallu rivaliser d'imagination pour ne pas que les enfants souffrent trop de la situation.
Ce n'est pas le moment de les charger qu'un tas d'exercices, de devoirs à faire tout seul dans leur coin. Du coup, j'essaye de faire un parcours interdisciplinaire qui occupe les enfants, mais les rend heureux aussi.
Et Cécile, quelles sont les bonnes idées de cette enseignante pour que ses élèves gardent le moral ?
Elle leur a d'abord demandé de planter des graines de lentilles, de haricots, pour tout replanter ensemble à la fin du confinement. Elle n'oublie jamais non plus de fêter les anniversaires des élèves de la classe, comme il y a quelques jours. Imaginez 16 petits visages qui chantent en chœur sur un écran d'ordinateur.
Tanti auguri.
Mais l'idée la plus incroyable, c'était pour la fête mondiale des mathématiques le 14 mars dernier, car Luisa Lenta est aussi prof de maths. Elle a demandé à ses élèves de suivre un cours en ligne destiné aux enfants, organisé par l'école de robotique de Gênes. Ensuite, elle a demandé à chacun de se déguiser en chiffres pour la prochaine leçon par visioconférence.
Chacun est apparu avec son déguisement, certains avec des masques en forme de chiffres, certains maquillés avec le maquillage de leur maman en chiffres pi, ou leur chiffre préféré. certains en Pythagore, et moi j'étais en fait des chiffres avec un déguisement de carnaval. Je m'étais fait une couronne avec le chiffre zéro, et c'était un symbole, je leur ai dit, quand on aura zéro contamination, on pourra tous se retrouver.
Chaque enfant a cuisiné un gâteau avec ses parents, comme elle l'aurait fait à l'école avec eux. Elle a recueilli toutes les recettes pour en faire un petit livre dans lequel elle ajoutera ensuite celles de tous les correspondants virtuels d'Angleterre et d'ailleurs.
Et ailleurs en Italie, comment se passe l'enseignement à distance ?
On peut dire que le confinement a décuplé la créativité des enseignants italiens. À Bergame, l'une des villes les plus touchées d'Italie, dans le nord du pays, une maîtresse envoie des comptes pour ses élèves sur WhatsApp, elle leur envoie des messages audio et leur lit des poésies, ou bien cette histoire imaginée à partir des consignes, des gestes barrières pour lutter contre le coronavirus.
Io sono la piega del gomito.
Je suis l'intérieur du coude. Il y a quelques jours encore, personne n'avait jamais entendu parler de moi. Pourtant, je suis très sensible, surtout si on me fait des chatouilles, ou bien si on me pique pour une piqûre.
Les plus âgés ne sont pas en reste. Dans les lycées de tout le pays, l'écrivain Roberto Saviano donne des cours en direct sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook.
On connaît bien cet écrivain et journaliste pour ses enquêtes sur la mafia à Naples. Alors que vient-il enseigner aux élèves aujourd'hui ?
En réalité, il s'attaque à des points du programme scolaire sur demande des professeurs, comme lors de cette leçon sur amour et enfer dans la comédie divine de Dante.
Eccoci. Nous y voilà. Vous m'entendez ? On va commencer la leçon de la quarantaine. Ces leçons sont ouvertes à tout le monde. Elles sont aussi en direct sur Instagram. Je m'organise avec les professeurs et les élèves qui veulent me faire intervenir dans leur programme. Souvent, ce sont des écoles qui m'ont invité ces dernières années et avec lesquelles on n'a jamais réussi à s'organiser. Et à l'occasion de cette situation que l'on vit tous, on réussit finalement à s'organiser alors que les classes n'ont jamais été aussi éparpillées, mais jamais aussi unies.
Ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, son expérience de terrain peut donner un autre éclairage aux sujets étudiés à l'école. Avec un lycée agricole, par exemple, il a discuté de l'importance des circuits courts pour notamment éviter que ne soient employés dans des conditions abominables une main-d'œuvre essentiellement africaine.
Merci Cécile Debarge pour ce tour d'horizon d'une école inspirante.
Merci.
Et en Turquie, ce sont 18 millions d'écoliers et de collégiens qui suivent les cours à la maison depuis le 23 mars. Le ministère de l'Éducation a mis sur pied une plateforme internet, mais aussi 3 chaînes de télévision pour aider les enseignants. Mais dans un pays qui tolère de moins en moins toute forme d'opposition ou de libre parole, cette école à distance est une occasion en or pour instiller un peu de propagande dans les programmes. Reportage à Istanbul, signé Anandla Auer.
Lundi 23 mars, premier jour d'école à la maison pour des millions de jeunes turcs et première polémique sur les réseaux sociaux. Rapidement, on y voit circuler ces images, filmées par un parent d'élève, d'un écran de télévision diffusant un dessin animé sur une chaîne publique, censé permettre aux collégiens de suivre les cours depuis leur canapé. Le problème, ce n'est pas le fait qu'il s'agisse d'un dessin animé, mais son thème, la mort d'Adnan Menderes, premier ministre turc de 1950 à 1960. En l'occurrence, sa mort par pendaison à l'issue d'un putsch militaire. Et rien n'était épargné aux jeunes téléspectateurs. La corde autour du cou, le coup de pied dans le tabouret, le corps sans vie qui se balance. Mirai, maman d'une collégienne, n'en a pas cru ses yeux.
Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oublier Adnan Menderes ? Aucune scène de pendaison n'a sa place dans un programme éducatif ? Comment ont-ils pu faire ça ? Ce sont de vrais psychopathes.
En Turquie, chacun le sait, Recep Tayyip Erdogan revendique l'héritage d'Adnan Menderes, d'autant plus depuis que l'actuel président a lui-même échappé à un coup d'État en juillet 2016. Mirai assure qu'elle n'est pas dupe de ce qu'elle considère comme des images de propagande. Et sa fille non plus, selon elle. Mais Mirai s'interroge sur les intentions de ceux qui ont cru bon de diffuser de telles images à une heure où plus de 5,5 millions de collégiens étaient devant l'écran.
J'en plaisante, mais quand on y réfléchit une minute, est-ce qu'il ne serait pas en train d'instiller quelque chose chez les nouvelles générations, de créer une nouvelle génération encline à la violence.
Certes, le ministre de l'Éducation a jugé que ce programme n'aurait pas dû être diffusé, en tout cas pas à cette heure-là. Mais cela n'a pas suffi à éteindre la polémique. D'autant qu'en guise de pause musicale, le même jour, les lycéens, eux, ont eu droit à des chants religieux musulmans, captés là encore par un parent d'élève interloqué. Quelques jours plus tard, toujours sur cette chaîne publique consacrée aux cours à distance, lors d'une leçon dite de morale et culture religieuse, les lycéens ont entendu ces mots.
L'athéisme est contraire à la nature humaine. Que signifie-t-on par là? Eh bien, pensez à cette maxime. Il n'y a pas d'athéiste dans un avion qui tombe ou dans un bateau qui coule. L'être humain a toujours besoin de s'accrocher à un créateur.
Mirai, pour laquelle le lycée remonte à une vingtaine d'années et qui suivait aussi à l'époque des cours de culture religieuse, ne se souvient pas avoir entendu de tels propos.
On mémorisait surtout des versets du Coran. Oui, on nous expliquait ce qu'est l'athéisme, mais sans dire c'est bien ou c'est mal.
Pour Ferai Aitekin Aydoğan, présidente d'Eğitimsen, premier syndicat d'enseignants, ces polémiques à répétition sont la conséquence d'une réalité qu'elle dénonce depuis des années. Les programmes scolaires turcs sont préparés sans concertation avec les organisations professionnelle comme la sienne.
Nous avions appelé le gouvernement, comme nous l'avons toujours fait, à consulter les syndicats et les spécialistes de l'éducation pour préparer ces cours à distance. Malheureusement, nous n'avons jamais été entendus. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des images violentes ou des contenus éducatifs qui nient l'égalité sociale entre les sexes, par exemple.
Si beaucoup de parents ont été choqués de découvrir certaines images censées transposer à l'écran les programmes scolaires turcs, Ferah Aytekin Aydoğan dit ne pas avoir été surprise.
C'est la conséquence de politiques éducatives que nous dénonçons depuis des années, qui sont pensées main dans la main avec un certain nombre de structures et de groupes religieux et que nous subissons déjà avec nos élèves. Ce qui se passe depuis le début des cours à distance, c'est que les parents et tous les citoyens, en fait, prennent conscience de cette réalité sur leur écran de télévision. Et ils sont choqués, à raison.
Selon elle, les effets de tels contenus pourraient être d'autant plus nocifs que les élèves sont confinés chez eux, coupés de leurs amis et de leurs repères habituels.
Bien sûr qu'il est important de poursuivre l'école à distance, de faire en sorte que nos élèves ne décrochent pas. Mais dans le contexte de cette épidémie de coronavirus, un contexte angoissant pour tout le monde, la priorité est de préserver la santé mentale des élèves. Ces contenus problématiques montrent que le ministère de l'Éducation n'a pas encore pris la mesure de la gravité de ce contexte.
Pour 18 millions d'écoliers, de collégiens et lycéens turcs, les cours à distance devraient se poursuivre au moins jusqu'au 30 avril. I guess I'm homeschooled now. Everything's corona canceled. I guess I'm homeschooled now. I'm not so good at history and science is a mystery. I don't know where to begin. Voilà 3 semaines que les écoliers polonais sont confinés chez eux. Là encore, les devoirs sont envoyés par Internet et les cours parfois donnés par visioconférence. Mais cette école à distance est un profond révélateur de la fracture numérique du pays. Tout le monde n'a pas un accès égal au réseau, c'est le moins qu'on puisse dire. À Varsovie, Thomas Giraudot.
Un foyer polonais sur 5 n'a pas accès au haut débit. Télécharger les devoirs prend des heures, suivre les cours par visioconférence, impossible. Et puis il faut partager l'ordinateur familial avec les parents, les frères et sœurs. Selon une enquête de l'université de Varsovie, près d'un tiers des enfants polonais ne peuvent pas suivre les cours à distance. Dorota Woboda dirige la commission éducation au conseil municipal de Varsovie.
Notre ministre de l'éducation veut que les professeurs respectent le programme scolaire. C'est juste impossible. Dans de nombreux villages, à la campagne, il y a des problèmes d'accès à Internet. Ça veut dire que les enfants qui vivent dans les grandes villes, qui ont des parents riches, ont accès à l'éducation en ligne, tandis que ceux qui vivent dans des familles plus pauvres, avec un seul ordinateur, ils ne peuvent pas apprendre.
Sur le manque de matériel, le ministère de l'Éducation a débloqué 40 millions d'euros des fonds européens pour équiper les enfants en ordinateurs portables et en tablettes. Mais dans de telles conditions, faut-il maintenir les examens de fin d'école primaire et du lycée, d'autant plus qu'ils devront se faire en ligne? Ils sont toujours prévus fin avril pour le premier, début mai pour le second. Dorota Woboda.
Ma plus grande fille doit passer la matura, l'examen de fin de lycée au mois de mai. Mais c'est difficile pour elle d'apprendre à distance. En partie parce que seul un certain nombre de professeurs savent donner des cours en ligne. Personne ne leur a jamais appris. Le mieux, c'est d'annuler l'examen de fin d'école primaire et de reporter celui de fin du lycée.
La grande majorité des Polonais souhaitent aussi le report des examens.
Bienvenue sur ma chaîne Mathétique. Tu y trouveras plus d'un millier de vidéos qui couvrent intégralement les programmes de mathématiques du collège et du lycée. Toutes les vidéos sont rangées dans des playlists, par niveau et par chapitre. De cette façon, tu pourras apprendre en toute autonomie.
Et en France, cette période de pandémie met plus que jamais en évidence les chaînes YouTube de professeurs très connectés. C'est le cas de maths éthique du professeur Yvan Monca. Cet enseignant d'Haguenau en Alsace a su fédérer près de 700 000 abonnés autour de ses cours de mathématiques qui couvrent les programmes de la 6e à la terminale. Portrait d'un pédagogue hors pair signé Robin Dussène.
Dérivation, fonction trigonométrique ou encore logarithme népérien, toutes ces notions un peu éloignés pour certains d'entre nous, ont un point commun, celui d'être au programme du bac pour près de 750 000 jeunes français. Mais pas facile d'apprendre ces leçons quand on doit rester à la maison. Et c'est là qu'intervient Yvan Monca.
Bienvenue sur ma chaîne Mathétique.
À 49 ans, Yvan Monca peut se targuer d'une certaine notoriété. Avec près de 730 000 abonnés, il est l'un des enseignants les plus en vue sur YouTube. Sa chaîne, il a décidé de la créer fin 2015 en s'inspirant de Julio Profe, un prof colombien qui cartonne auprès des jeunes. Sa méthode est simple, prendre le temps et multiplier les exemples concrets.
Bonjour. On va parler clope, on va faire quelques petits calculs très instructifs, tu vas voir. Actuellement, un paquet de
devant son tableau blanc, l'enseignant déroule les formules mathématiques, sans chichi ni artifice, loin de l'image que se donnent certains youtubeurs. Et pourtant, ses vidéos cumulent au total plus de 103 millions de vues.
Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à effectuer une démonstration par récurrence.
Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer la limite d'une suite géométrique.
Des audiences multipliées par 2 ou par 3 depuis la fermeture des établissements scolaires, mais pas question pour Yvan Monca de profiter de cette YouTube money, cet argent généré par la publicité. En 5 ans, l'enseignant a reversé l'intégralité des 50 000 euros qu'il a touchés à l'UNICEF et au Resto du Cœur. Habitant lui-même dans l'un des principaux foyers de coronavirus, il a adressé le 19 mars dernier un chèque de 5 000 euros à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France.
Bonjour monsieur, au revoir. Bonjour monsieur, au revoir. Bonjour monsieur, au revoir. Bonjour monsieur, au revoir.
Et en Hongrie, c'est la 5e chaîne de la télévision publique qui s'est reconvertie dans l'enseignement. Elle diffuse des cours de maths, de hongrois ou de langues étrangères. Mais dans un pays dirigé par le gouvernement ultra-conservateur de Viktor Orban, le ministère de l'Éducation n'a pas brillé vraiment par ses innovations. La chaîne a plutôt fouillé dans ses stocks et repêché de vieilles émissions. Style rétro garanti, Florence Labruyère a regardé pour nous.
11h du matin à la télévision publique hongroise, c'est l'heure de la leçon de français qui commence au son de l'accordéon. Un homme apparaît à l'image. Avec sa chemise à carreaux et son jean fatigué, il a plutôt l'air d'un jardinier, mais non, il est bien professeur de français. C'est un cours pour débutants, alors il commence par le béaba.
Si on se vouvoie, on dit bonjour. Bonjour est le nom entier. Bonjour, je m'appelle Richard Sipos.
Richard répète son nom une bonne demi-douzaine de fois, puis un dessin apparaît à l'écran. Dans le bureau d'une entreprise, on voit une réceptionniste accueillir un visiteur.
Bonjour.
Bonjour monsieur, votre nom s'il vous plaît ?
Je m'appelle Michel Legrand.
Bienvenue chez nous, monsieur Legrand.
Le même dialogue se répète pendant une bonne minute. Ensuite, si l'élève ne s'est pas encore endormi devant l'écran, il apprend un nouveau mot.
Le soir, on dit bonsoir.
Les dialogues sont suivis de longues explications en hongrois. Pour Zsuzsa Berkesi, professeur de français dans un lycée de Budapest, cette méthode poussiéreuse semble dater des débuts du petit écran.
J'avais l'impression que c'était un voyage dans le temps. Donc, c'était vraiment les années 50, quoi. C'est le style de l'enseignement. Donc, je dirais même pas les années 80, mais les années 50. Donc, ça correspond pas du tout à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, déjà, c'est bilingue. Avec beaucoup plus d'explications en hongrois qu'en français. Et ça n'a aucun intérêt.
La télévision hongroise diffuse aussi des leçons d'anglais et d'espagnol dans le même style rétro. Des cours que la plupart des enseignants estiment inutilisables.
C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.
Et c'est ainsi que se termine Accent d'Europe. L'émission a été réalisée à distance et en confinement par Françoise Grelot. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une autre émission spéciale sur cette épidémie de coronavirus.